Bonjour à chacun, vous êtes en forme? Voilà, je vais essayer de ne pas bégayer. J'ai déjà enlevé le masque, hein, vous avez vu. C'est un bon début. Ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à entendre l'évangile et à découvrir, à réaliser que Dieu était vivant, c'est tout une démarche, c'est tout un cheminement. Je ne sais pas quel est le vôtre, je ne sais pas là où vous en êtes, mais je crois qu'à chaque fois qu'on se rassemble dans ce lieu, pas parce que c'est un bâtiment particulier, mais parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Est-ce qu'on peut dire à son voisin, ne vous inquiétez pas, on revient de Mulhouse, donc il faut juste que tu as bien fait de venir parce que Dieu est dans ce lieu, même si tu ne le sens pas. Et en même temps, profitez-en pour l'accueillir. Amen. Voilà, c'est important pouvoir accueillir vraiment la présence de Dieu et puis aussi de s'accueillir les uns les autres. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'ai l'impression que ça fait un moment que, pourtant ça fait pas si longtemps, mais je me réjouis vraiment de ces rassemblements, de ces moments où on peut être ensemble pour louer Dieu, pour entendre sa parole. Parce qu'à chaque fois que Dieu est là, eh bien, je crois qu'il a des choses à dire et surtout à faire. Amen. Ce qui m'a frappé, quand j'ai commencé à connaître Dieu, je connaissais Dieu de loin. J'avais une culture chrétienne et je pensais que Dieu, ça m'arrivait de prier, mais alors vraiment c'était une prière toute faite. Mais le cœur était quand même là quand j'étais petit, et je pensais vraiment qu'il était très 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 loin. Et quand j'ai commencé à entendre l'évangile, quand j'ai commencé à rencontrer des frères et des sœurs, des hommes et des femmes qui ont fait une expérience véritable avec Dieu, ce qui m'a frappé très tôt, ça m'a impressionné, c'est de réaliser, de sentir que Dieu non seulement était là, mais qu'il n'y a pas de limite dans son action. Ce qui me passionnait quand on commençait à venir au groupe de jeunes et qu'on commençait à prier, c'était compliqué de prier parce que je ne savais pas comment prier à haute voix. Et donc on nous avait dit, écoute, commence par une phrase, c'est déjà bien. Mais au-delà de ça, je sentais vraiment dans mon cœur que c'est comme si quelque part, il y avait intérieurement cette attente de dire, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Pour quelle raison? Parce que la première des expériences que j'ai faites, ça a été une guérison miraculeuse. Et je me suis dit, si Dieu est capable de guérir, alors il est capable de beaucoup de choses. J'avais ma grand-mère qui commençait à venir et qui écoutait l'évangile également. Et ma grand-mère n'était pas chrétienne. Elle commençait à venir écouter l'évangile dans une église évangélique. Et puis, son cœur commençait à s'ouvrir. On commençait dans notre famille. Il commençait à y avoir une pandémie, pas de Covid, mais de l'Évangile. Et il y en avait plusieurs qui commençaient à se convertir à Marseille, en Bourgogne, dans le sud de la France. Il commençait à y avoir... c'était passionnant. Et en même temps, on avait des contre-coups. Il ne faut pas en avoir peur. Ma grand-mère, une fois, elle est sortie de là. Ils étaient en voiture. Ils ont quitté la Réunion. Et ils ont eu un accident. Une voiture les a percutés. Et ma grand-mère était à l'hôpital. Alors, une partie de ma famille était très fâchée, ce qu'ils ont dit, mais elle a eu un accident en sortant de la Réunion, mais qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas, quoi. Et on a évidemment prié, elle commençait ses pas dans la foi, elle était aux urgences, elle était sous respirateur, et puis dans cette période-là, dramatique, qui était quand même un petit peu, je dirais... un petit peu problématique aussi pour notre foi, en disant, mais pourtant, elle s'approche de Dieu, et voilà qu'elle se retrouve à l'hôpital. Et elle nous dira, quand elle est sortie de l'hôpital, elle a tellement vécu la proximité, la présence de Dieu, qu'elle dira, mais j'ai presque envie d'y revenir. Je dis, non, mais alors tu peux la vivre ailleurs, hein. La présence de Dieu, on peut la vivre ailleurs. La conscience que tout est possible avec Dieu. Et ça m'a pas quitté. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de découragement, qu'on n'a pas de difficultés. Mais c'est cette conscience que si le Dieu créateur de l'univers est là, alors tout est possible. Amen. Et je voudrais vous inviter à lire un texte dans la parole de Dieu. C'est dans 2 Rois, chapitre 4. Il y a 7 versets. Donc, dans l'Ancien Testament. Et on va le lire ensemble. Ça y est, vous l'avez trouvé ? C'est sur l'écran, hein ? C'est plus facile. Un jour, je lis le texte, ce texte-là, c'est la version, c'est une version anglaise qui a été traduite, juste pour avoir un son un peu nouveau, une musicalité nouvelle. Un jour, la veuve d'un membre du groupe des prophètes vint trouver Élisée et s'écria « Mon mari qui te servait est mort et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Mais voici qu'un créancier vient me menacer de prendre mes deux fils comme esclaves. Que puis-je faire pour t'aider ?» demanda Élisée. « Dis-moi, qu'as-tu dans la maison ?» Elle répondit « Rien du tout, si ce n'est une fiole d'huile d'olive. » Élisée dit « Emprunte à tes amis et à tes voisins autant de cruches vides que tu pourras, puis entre dans ta maison avec tes fils et ferme la porte derrière toi. Verse dans les jarres d'huile de l'huile que tu as dans ta gourde et mets-les de côté quand elles sont pleines. » Elle fit ce qu'on lui avait dit, ses fils lui apportèrent des jarres et elle les remplit, l'une après l'autre. Bientôt, tous les récipients furent remplis à ras-bord. Elle dit à l'un de ses fils, « Apporte-moi une autre jarre. » Il lui répondit, « Il n'y en a plus. » L'huile cessa de couler. Lorsqu'elle raconta ce qui s'était passé à l'homme de Dieu, celui-ci lui dit, « Vends l'huile, paie tes dettes, et toi et tes fils, vous vivrez de ce qui restera. » Texte de la parole de Dieu dans 2 Rois. On sait que dans 1 Roi et 2 Rois, il est question des rois d'Israël et de Juda. Et il nous est raconté comment ils ont vécu jusqu'à la déportation. Le critère, c'est leur attitude de cœur vis-à-vis de l'Éternel. Dans 2 Rois, ça couvre à peu près 250 ans d'histoire d'Israël et de Juda. Élisée est le successeur d'Élie. Et il va être, dans cet épisode-là, il va être un instrument pour répondre à une situation de crise sur le moment. Il va démontrer la faveur de Dieu. Donc il y a une réalité présente d'il y a des siècles, mais également au travers de ce que Élisée va faire et ce qu'il va dire, il y a aussi une portée qui est future pour les prochaines générations. Et c'est la raison pour laquelle on peut lire ce texte. Le prophète, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui dit « avant » ou c'est celui qui dit « devant ». Celui qui dit « avant », c'est qu'il reçoit des choses à l'avance pour les siècles à venir. En l'occurrence, la venue du Messie, le salut en Jésus-Christ, il va le recevoir des siècles avant. Même des fois, il va prophétiser et il ne va pas tout à fait comprendre ce qu'il est en train de recevoir. Et puis, il y a un aspect du prophète de l'Ancien Testament, c'est qu'il dit devant, dans le sens de déclarer hautement, de déclarer la parole de Dieu. Il est celui qui annonce, mais qui déclare et qui dit également, voilà ce que dit l'Éternel. Et ça, c'est vraiment précieux. Dans la racine de prophète, Fémi, c'est la racine briller. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, ce ne sont pas que des gens bizarres qui annoncent des choses que personne ne comprend, mais il est également celui qui va rappeler ce que Dieu dit et qui va éclairer ce qu'il écoute, la parole, mais il va également incarner le message. Et je voudrais mettre l'accent sur cette réalité chez le prophète Élisée, quand on le lit. Eh bien, est-ce qu'il y a, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, il y a une partie de son ADN qui me parle et qui est en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, de dire qu'avec Dieu, quand Dieu est là, tout est possible. Pourquoi ? Parce qu'il est le créateur de l'univers. Mais il est également celui qui vient sur la terre, dans la personne de Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Il vient et il se rend abordable. Et quand il est sur la terre, il va parler en parabole. Il va parler de manière à ce qu'il puisse être compris par tout le monde. Il va même accueillir les enfants. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, bien sûr que maintenant, il est revenu, il est remonté dans le ciel, mais nous ne sommes pas orphelins, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, qui est là présent. Amen. Et est-ce que, alors qu'on est dans sa présence, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux et de dire et de réaliser, peut-être que tu ne connais pas Dieu, et tu as le droit de faire cette prière, de dire, écoute, je ne te connais pas, mais viens, révèle-toi à moi, si tu existes. Et puis si on le connaît, on peut lui dire, Seigneur, c'est vrai que je suis venu ce matin, et je veux te déposer, je veux ouvrir mon cœur, je veux t'ouvrir mon cœur, je veux t'ouvrir ma vie. Que tout ce qui est en train dans mes pensées de m'amener ailleurs, maintenant, soit stoppé, et que mon cœur se tourne vers toi encore plus. Viens, Saint-Esprit, renouvelle les cœurs, renouvelle nos vies, renouvelle notre intelligence, et que nous puissions recevoir ce que tu veux faire ce matin dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le prophète Élisée, une partie de son ADN, c'est l'audace. L'audace. Il est avec Élie, et vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent la parole, je le dis peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués à ce texte, Élisée va venir et Élie va lui poser la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et il dira, Élisée, vous vous souvenez ce qu'il répond? Il dit, que je puisse avoir une double portion de ton Saint-Esprit. Waouh, vous imaginez? C'est magnifique. Comment on aurait pu interpréter ça? Élie va lui dire, ce que tu demandes est une chose difficile. C'est difficile. Est-ce qu'il est en train de lui dire, écoute, t'es un peu jeune, double onction par rapport à moi. Bon, écoute, peut-être que si Élie avait pas été clair, il aurait pu lui dire, attends, calme-toi, t'es jeune, écoute. Et quand il lui dit, en fait, c'est pas du tout le cœur d'Élie, hein. Quand il lui dit, tu demandes quelque chose de difficile, il aurait pu se dire aussi, mais attends, mais que vont penser les autres? T'es pas un peu orgueilleux dans ta demande? Il va lui dire une chose importante. Il va lui dire, écoute, ce que tu demandes est difficile. Parce que si tu m'avais demandé mon manteau, j'aurais pu te le donner. Si tu m'avais demandé de prier pour toi, j'aurais pu prier pour toi. Si tu m'avais demandé la méthode, les 7 clés pour être un super prophète, j'aurais pu peut-être partager avec toi. Mais là, ce que tu es en train de me demander, je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te le donner. Pour quelle raison? Parce que c'est que Dieu qui donne cela. Moi, je peux te montrer l'exemple, aurait pu dire Élie, j'aurais pu effectivement prier pour toi, mais Élie reçoit de la part de Dieu que si Élisée voit que Élie est enlevé sur des chars de feu, alors ça va se réaliser. Et en ça, Élisée a été audacieux. Il a cru que Dieu était le Dieu capable de lui accorder une double onction, et c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il va faire 2 fois plus de miracles. Et si Dieu lui accorde, on peut penser que si Élisée avait dans son cœur cette pensée de se glorifier, je pense que Dieu ne lui aurait pas donné. Et de la même manière qu'Élie a reçu cette onction pour la gloire de Dieu, Élisée va également manifester la gloire de Dieu. Donc ça fait vraiment partie de son ADN. Et ça, c'est vraiment glorieux. Et ça nous fait penser, par rapport à la jeune génération, Élisée prend le relais, et gloire à Dieu, il demande une double onction. Et nous prions pour que les jeunes puissent avoir ce cœur de dire, Seigneur, je veux le maximum pour toi. Je veux tous les aspirer aux dons les meilleurs. Alors moi, je priais, Seigneur, donne-moi tous les dons. Le Seigneur est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Alors, Seigneur, donne-moi ta vie en abondance, parce que c'est toi qui le dis. Amen. D'être pas ambitieux pour notre propre gloire, mais Dieu n'est pas limité. Et c'est juste d'avoir ce cœur de dire, mais écoute, le chemin est ouvert. Christ est ressuscité. Alors, c'est juste aussi de venir et de dire, Seigneur, fais-moi voir si tu es véritablement vivant, si tu es capable de me sauver. C'est juste de le faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Par la réconciliation avec le Père, le chemin est ouvert. Alors, on n'a aucun scrupule à dire, mais j'y vais, quoi. J'y vais, je peux demander. Fait partie de l'ADN d'Élisée. Et dans le texte que l'on vient de lire, voilà que Élisée, avec son appel qui vient de Dieu, l'onction qui lui est propre, peut-être certainement ses erreurs, il va être confronté à une situation un peu particulière, c'est cette veuve, dans 2 Rois 4. Et cette veuve est dans une situation désespérée. Son mari qui craint Dieu, elle aussi, son mari est décédé, et elle-même a cet ADN et de dire « Je suis désespérée dans ma situation. » Et elle va crier à Élisée parce qu'elle sait que Élisée vient de la part de Dieu, qu'il a l'onction, qu'il est capable de parler de la part de Dieu et d'agir de la part de Dieu. Alors elle va crier, elle va se tourner vers l'homme de Dieu. Et elle va lui dire, regardez au verset 1, elle va dire « Je suis vraiment dans une difficulté parce que les créanciers viennent et ils sont capables de prendre mes deux enfants pour faire d'eux des esclaves. » Voilà des parents qui sont chrétiens, croyants, qui craignent Dieu, qui ont vu aussi la main de Dieu. Et voilà que le risque, c'est que les enfants viennent et soient dans l'esclavage. Elle crie vers Dieu, pas seulement pour pouvoir vivre, ce qui est déjà beaucoup, mais parce qu'elle ne veut pas que la jeune génération soit dans l'esclavage. Et c'est le risque. Et elle va dire, elle va crier, elle va s'adresser. Peut-être qu'il y a des parents qui s'adressent à Dieu. Peut-être qu'il y a ceux qui s'occupent des enfants, des ados, qui s'occupent des jeunes. Peut-être qu'on prie pour que la jeune génération ne soit pas ou ne reste pas dans l'esclavage. Alors, que fait l'homme de Dieu, Élisée, au verset 2, et il va dire, « Que puis-je faire pour toi ?» Intéressant, hein ? Je crois vraiment que Dieu nous pose cette question, à chacun. Vous vous souvenez, François nous a parlé de ce passage de 1 Pierre 2, « Nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes tous appelés à avoir cette relation avec Dieu, à servir Dieu. » Et Dieu nous pose la question, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et c'est important parce que vous vous souvenez dans l'évangile de Luc, quand l'aveugle vient et qu'il appelle Jésus, Jésus vient devant l'aveugle et Jésus lui dira, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? De verbaliser non seulement notre besoin, c'est ce qu'a fait cette dame, mais également de dire à Dieu notre attente, de verbaliser notre foi et d'avoir cette audace de lui dire, Seigneur, interviens dans ma vie, interviens dans mon travail, interviens dans ma santé, interviens aussi dans ma relation avec toi. J'ai perdu le feu du premier amour. Interviens dans le membre de cette famille qui est en train de se perdre. Seigneur, je te demande cela. Et alors qu'on partage cela, eh bien, commencez à penser et à dire dans votre cœur qu'est-ce que nous attendons de la part de Dieu. Bien sûr, il faut que ce soit aligné avec sa parole, mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Et c'est ça qui fait que l'Église de Jésus-Christ peut se lever et peut être des témoins, être un témoin véritable, parce que Dieu est à l'œuvre. Amen. Que veux-tu que je te fasse? Et puis, il va poser une deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Qu'est-ce que tu as? C'est quoi exactement? va reprendre le texte. Qu'as-tu chez toi, hein, c'est ça ? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ? Mais au départ, elle va dire, je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout. Et des fois, on a l'impression, dans notre vie chrétienne, que malgré toutes les expériences, malgré tout ce que Dieu nous a dit, malgré tous les dons, j'ai l'impression que je n'ai rien. J'ai l'impression, et l'ennemi vient en disant, mais tu n'as rien en fait. Dieu t'a abandonné, où tu en es ? Et il y a une espèce de culpabilité en disant, mais voilà ce que tu aurais pu faire, voilà ce que tu aurais pu dire. Il y a comme quelque chose qui est là. Et cette femme dira, et elle va mettre l'accent sur ce qu'elle n'a pas. Et certainement, elle devait être pauvre. Mais en même temps, elle a une fiole d'huile. Et sur ce qu'elle a et ce qu'elle va apporter, eh bien, Dieu va multiplier. Dieu va faire fructifier. Dieu fait le miracle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, nous avons notre part à faire et Dieu fait sa part. Amen. Qu'as-tu chez toi ? Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous les voisins, des récipients vides. Demande-en en grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Dieu lui dira, mais au travers du prophète, va récupérer beaucoup de vases. Va récupérer beaucoup de vases. Et là, à ce moment-là, quelles sont les consignes d'Élisée ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Quels sont les deux éléments qui sont importants dans la demande d'Élisée ? Est-ce qu'il va préciser le nombre de récipients ? Est-ce qu'il va préciser à quel endroit, chez qui elle va demander ? Est-ce qu'il va préciser la couleur des récipients ? Quelles sont les deux caractéristiques fondamentales ? Et ça, c'est intéressant parce que ça fait partie de l'ADN d'Élisée en lui disant, il ne lui donne pas de nombre de chiffres. Moi, c'est vrai qu'avec des fois, toutes mes questions, j'aurais pu poser, mais ok, mais où je peux aller ? Combien tu en veux ? C'est quoi la dimension ? En grand nombre. Il lui dit, en grand nombre. Et le deuxième critère, c'est quoi ? C'est vide. Et pour moi, je vois ici deux significations. C'est vrai que dans ce que dit le prophète, ça correspond à une situation qui est à l'époque. Mais aujourd'hui, combien de personnes, d'hommes et de femmes, sont dans ce monde et se sentent vides à l'intérieur et qui essayent de combler au travers de beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de sports, beaucoup de diplômes, beaucoup de choses qui peuvent essayer de combler le cœur. Mais est-ce que notre cœur est comblé par la présence de Dieu ? Est-ce que notre cœur est rassasié ? Est-ce que nous sommes heureux de la vie ? On a eu cet enterrement cette semaine qui était vraiment très émouvant. Et on a entendu le témoignage d'Arlette qui était très fort. Et dans cette question, alors qu'elle était dans une maladie très forte, en même temps, la présence de Dieu, la fidélité de Dieu, les victoires qu'elle a pu rencontrer et qu'elle a pu expérimenter au sein de la maladie, a pu faire qu'elle a dit, mais j'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la vie avec Dieu. Et puis, il y a cette deuxième signification, c'est pour l'Église de Christ. Il y a quelqu'un de célèbre, je crois que c'est Saint Augustin, qui disait, mais Dieu a toujours quelque chose à nous donner. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut nous donner, mais on a les mains trop pleines pour le saisir. Dans nos cœurs, des fois, on est tellement pris par beaucoup de choses. Notre cœur est plein et il y a une telle activité, il y a un tel bouillonnement, il y a une telle que des fois, on est dans la présence de Dieu et on pense déjà 10 000 choses et on a du mal à lui faire de la place. Alors j'ai une bonne nouvelle, ce matin, on va prendre le temps. On va prendre le temps pour que le Saint-Esprit renouvelle et remplisse nos cœurs, nos vases. Amen. On va prendre ce temps-là. Amen. Et il dira en grand nombre et qu'il soit vide. Donc il n'y a pas de limite. Alors, elle va quitter le prophète, elle ferme la porte derrière elle et ses enfants. qui lui présentait des récipients et elle versait. Il y a trois choses que l'on peut dire par rapport à ce verset. D'abord, cette dame qui est dans la détresse, elle va quitter le prophète. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va oser marcher sur la parole de Dieu. Elle aurait pu très bien avoir la tentation de dire « Je suis dans la présence d'Élisée, il a l'onction, il a le discernement, il a tout ce qu'il faut, je veux rester avec Élisée, je veux rester près de lui. Est-ce que Élisée, tu peux prier pour moi encore ? Est-ce que Élisée, tu peux me réexpliquer ce que tu dis ? Je veux rester près de toi, parce que tu parles bien, parce que tu as l'onction, parce que la présence de Dieu est avec toi, alors je veux rester avec toi. » Ça aurait été véritablement une tentation. Ça aurait été une tentation. Elle quitte le prophète parce qu'elle estime que la parole de Dieu pour elle, pour sa situation, est plus importante que de rester et pour être au bénéfice de l'onction de quelqu'un d'autre. Et quand elle part sur la parole de Dieu que Dieu lui a donnée pour elle, dans sa situation, qu'est-ce que Dieu nous dit dans notre situation ? Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Alors que nous sommes peut-être en recherche d'un travail, peut-être on est dans la dépression, peut-être qu'il y a des combats, il y a toutes sortes de choses où le diable nous dit « mais tu n'as rien ». Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Alors on essaye, et c'est une très très bonne chose d'aller voir des hommes, des femmes que l'on prie pour nous, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans notre situation ? Et j'ai appris que Dieu peut nous parler de différentes façons. Il peut nous parler au travers d'un frère, d'une sœur, il peut nous parler dans un rassemblement, Dieu peut nous parler alors qu'on lit la parole de Dieu, Dieu peut nous parler au travers d'un inconverti, Dieu peut nous parler au travers de circonstances. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Et à un moment donné, on est dans ce temps d'intercession en Église. Et dans ce temps d'intercession, je crois que la parole de Dieu, véritablement, a été libéré de différentes façons. Et j'ai envie de nous encourager et de dire, ne recherchons pas, ne nous appuyons pas sur des secours humains, même s'ils ont l'onction. La Bible nous dit, mais que heureux l'homme et la femme qui se confient en l'Éternel. Mais maudit celui qui se confie dans l'homme, même s'il s'appelle Élisée. Et on n'est pas en train de minimiser le bénéfice des ministères, hein, vous me comprenez bien. Mais ici, elle a le courage de quitter, de partir. Pourquoi faire ? Pour marcher sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit également aujourd'hui par rapport à notre situation particulière ? Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Et Dieu, sur sa parole, à ce moment-là, lorsqu'on agit, le miracle s'accomplit. Pierre, quand il sort de la barque et qu'il marche sur l'eau, c'est pas par ses forces, c'est sur la parole de Dieu. Quand Jésus se fait baptiser, il le fait parce que le Père veut qu'il le fasse et le ciel s'ouvre. La bénédiction est attachée à notre action qui est basée sur la parole de Dieu, écrite, mais également ce qu'il est en train de nous dire dans notre cœur. Et des fois, c'est pas très raisonnable ce que Dieu nous dit. En tout cas, à notre, selon nos critères. Notre raisonnable n'est pas le raisonnable de Dieu. Mais en même temps, en tant qu'Église, dans les temps dans lesquels nous sommes, dans les temps troublés comme du temps d'Élisée, en tant qu'Église, nous avons besoin de marcher avec la force que Dieu nous donne. Amen. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et comment on va faire en tant qu'Église si on était en train de vivre dans un pays persécuté ? Comment on pourrait vivre notre foi ? Si on vivait en Éthiopie, si on vivait en Corée du Nord, comment on pourrait faire ? Je pense que cette réalité-là, il faudrait vite la mettre en pratique. Elle rentre dans sa maison et elle va fermer la porte. Pour quelle raison ? Il est dit que dans ce texte, elle ferme la porte. Elle a la parole de Dieu. Elle va agir sur la parole de Dieu. Et elle va rentrer chez elle avec tous ses récipients. Et là, c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. Qu'est-ce qui va se passer ? qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle a obéi, parce qu'elle a osé, parce qu'elle a été audacieuse, voilà que le peu d'huile qu'elle avait a été multiplié. Et voici que les récipients ont été remplis. Les récipients ont été remplis. Les récipients ont été remplis. À la Pentecôte, quand ils ont osé attendre sur la parole de Dieu, les 120 ont été remplis. Ils ont été tellement remplis. Ils ont été tellement remplis. Ils sont d'abord nés de nouveau. Après, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils vont se lever, ils vont annoncer l'Évangile. Et voilà que 3000 vases vont être remplis à nouveau parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur. Amen. Ils ont reçu l'Évangile. Ils ont cru. Ils se sont repentis. Ils ont osé croire sur la parole de la prédication. Et voilà que ces 3000 ont été remplis. Nouvelle naissance. Et puis, voilà, l'histoire s'est multipliée, a continué. Et ça, c'est important de fermer la porte à ce moment-là, parce que c'est notre propre expérience. On a besoin de ne pas être distrait dans la présence de Dieu. Des fois, la plus grande difficulté pour véritablement laisser Dieu agir dans nos vies, c'est de fermer la porte à toutes les pensées qui pourraient nous distraire. De fermer la porte à tout commentaire qui aurait pu être des voisins qui n'ont pas entendu la parole de Dieu et qui auraient pu lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces vases? C'est pas très raisonnable ton affaire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as perdu la raison. Je vais prier pour toi pour que tu sois raisonnable. » Mais quand c'est le moment de ce miracle personnel. Des fois, on a vécu des choses avec mon épouse. On avait reçu, on a marché sur ce que Dieu nous avait dit. Et quelquefois, même des pasteurs nous ont dit « Mais c'est pas raisonnable votre affaire. Franchement, c'est pas raisonnable. » Et je comprenais vraiment qu'ils puissent nous dire ça parce que sur tous les critères humains. Moi, j'aurais dit la même chose. J'aurais franchement dit la même chose. Si ce n'est que quand Dieu parle et qu'il nous parle, à ce moment-là, eh bien c'est bon de partir, de prendre ses récipients et de fermer la porte. De fermer la porte pour que le miracle se passe et que nous puissions vivre ce miracle. Parce que le miracle de Dieu qui s'est opéré dans la vie de cette veuve, elle a sauvé la nouvelle génération de l'esclavage. Et heureusement qu'elle a pu se lever et qu'elle a pu dire « Je crois dans la parole de Dieu ». Et nous voulons croire en tant qu'Église que la parole de Dieu est la vérité. Nous voulons croire que le Saint-Esprit est à l'œuvre et nous voulons être remplis à nouveau et que notre coupe déborde et que notre intercession soit une intercession pour que la nouvelle génération puisse ne pas être dans l'esclavage, mais qu'elle puisse être au bénéfice de l'huile qui coule du ciel. Amen, c'était un miracle. Et nous voulons nous lever pour cela. Et nous voulons dire, merci Seigneur, parce que cette huile qui a coulé lors de la Pentecôte, elle a coulé sur ces 3000, elle a coulé ensuite chez Corneille, elle a continué à couler le Saint-Esprit, la présence de Dieu qui a continué de génération en génération. Et nous ne voulons pas qu'elle s'arrête. Amen. Alors, effectivement, elle a vécu ce miracle avec ses fils. Et à un moment donné, elle était certainement tellement enthousiaste qu'elle a dit « Donne-moi un autre vase !» Et l'enfant a dit « Mais il n'y en a plus !» Et l'huile s'arrête. Est-ce que l'on peut imaginer un moment s'il y avait eu le double ou le triple de vases? Que se serait-il passé? Que se serait-il passé? Lorsqu'elle voit Élisée, Élisée lui dira, écoute, prends de l'huile, tu payes ta dette et tes enfants sont libres. Et tu vivras avec l'huile qui va rester. Vous avez ça dans vos Bibles? Il dira, vis avec l'huile qui te reste. Et je trouve très intéressant parce que Dieu, dans sa compassion et dans son amour, va intervenir miraculeusement pour qu'il y ait la libération. Mais après, la qualité de notre vie chrétienne ne dépend pas seulement de Dieu, mais elle dépend aussi de nous. Elle dépend dans notre capacité à enlever de nos cœurs tout ce qui crée un blocage, et souvent dans nos pensées. Je suis trop ci, je ne suis pas assez ça. Mais l'Esprit de Dieu coule, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu agit depuis 2000 ans et bien même avant. Il agit dans l'Église, et Dieu regarde sur la terre, et il cherche du regard, mais est-ce qu'il y a des vases en grand nombre dans mon peuple qui soient vides d'orgueil, vides de toute théorie, et de dire « je viens comme un enfant, Seigneur ». J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me remplisses à nouveau. J'ai besoin, comme dans ces églises de l'Apocalypse, tu travailles, tu es persévérant, tu as fait beaucoup de choses, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu du premier amour. Mais en même temps, je bénis Dieu et je suis enthousiaste parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et l'huile est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut nous remplir à nouveau. Saint-Esprit veut renouveler, nous redonner des nouvelles forces, une nouvelle compréhension, un nouveau dynamisme. Il veut nous parler dans la situation dans laquelle nous sommes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il veut également que nous puissions aller dans le monde et rassembler beaucoup de vases, des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui puissent être eux-mêmes remplis par le Saint-Esprit. Être remplis, être pardonnés de leurs péchés. Amen. Dieu est là ce matin. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, frères et sœurs ? Et je nous invite à continuer à ouvrir notre cœur. Et je vais nous proposer dans ce moment, d'abord, très à cœur, la jeune génération, je suis en train vraiment de ressentir dans mon cœur, de vraiment vous dire, de la part du Seigneur, je n'ai pas peur de le dire. J'ai travaillé pour ça. De dire, n'ayez aucun scrupule, n'ayez aucun, que personne ne méprise ta jeunesse. Ne dis pas parce que tu es jeune, parce que tu n'es pas assez ci ou pas assez ça, eh bien tu ne peux pas vivre la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre et tu ne peux pas te lever de la part de Dieu. Ne dis pas cela. Dieu est capable de te conduire pour ton mariage, pour le choix du conjoint. Dieu est capable de te conduire dans tous les détails. Dieu est capable de te conduire dans tes études, dans tous tes choix de vie. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ton intelligence, parce que Dieu veut agir et il veut se glorifier au travers de ta vie. Et ça, c'est une réalité. Et c'est vrai aussi pour l'Église. Et je voudrais vraiment que nous puissions maintenant, alors que nos yeux sont fermés, vivre ce temps et de dire, Seigneur, me voici, je suis ce vase. Et je veux te laisser remplir ma vie. Je veux te laisser remplir. Je me souviens d'avoir lu le récit du réveil à Azusa Street, quand au début du XXe siècle, il y a eu cette action puissante du Saint-Esprit. Et Dieu s'est servi d'hommes simples et de femmes simples. Et l'Esprit de Dieu a coulé et il y a eu des conversions, il y a eu une action miraculeuse de Dieu. Et à un moment donné, au bout de plusieurs mois, il y a des pasteurs qui savaient comment faire et qui ont dit, attendez, mettez-vous de côté, nous on sait faire. Et au moment où ils ont pris le relais avec leur organisation, le Saint-Esprit s'est arrêté. Et ce que je voudrais nous dire ce matin, c'est que même si on n'a pas tout compris, même si on n'est pas parfait, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse venir tel que nous sommes. Avec qui nous sommes et avec la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Et je voudrais nous inviter véritablement à ouvrir nos cœurs. Et je voudrais dire aussi, s'il y a dans cette salle des amis qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, c'est le jour du salut pour vous. Et vous pouvez aussi dire, je t'ouvre mon cœur et révèle-toi à moi, je veux te recevoir. On va prendre, je vous propose, alors que les yeux sont fermés, vous pouvez... Restez comme vous êtes, vous pouvez vous lever, vous pouvez, mais parler à Dieu et surtout que nous puissions, tous les vases que nous sommes, dire à Dieu, me voici, Seigneur. Le Saint-Esprit s'arrête quand il n'y a plus de vases ou quand les vases sont pleins, plein d'autres choses de la présence de Dieu. Je vais inviter Kelly, on va juste prendre quelques chants. N'ouvrez pas vos yeux, c'est des chants qu'on connaît. C'est juste qu'on puisse être ensemble dans la présence de Dieu. Et puis, j'ai à cœur aussi que dans ce moment, à un moment donné, on puisse aussi prier pour les jeunes. Qu'on puisse vraiment, mais pas tout de suite. Je voudrais d'abord qu'on vive ce temps. Et puis, à un moment donné, qu'on puisse vraiment aussi libérer, bénir, que Dieu puisse bénir et libérer cette nouvelle génération et qu'elle ne soit pas dans l'esclavage. Amen.